Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Courtoisie. Déjà en vacances? Encore en plein travail? Cela dit, peu importe, puisque nous sommes samedi. Pour mon compte, je me considère comme très chanceux, puisque j'ai depuis 10 mois la chance de vous retrouver un samedi sur deux avec cette fort agréable mission, grimper ensemble vers les neiges du Kilimandjaro.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Alors, que signifie ces mystérieux ce titre? Eh bien, si vous ne le savez pas encore, c'est que c'est une nouvelle qui porte ce nom, une nouvelle d'Ernest Hemingway, mon auteur favori. Et cette phrase figure en exergue de la nouvelle. Et cette phrase, pour moi, veut tout dire. Pourquoi faisons-nous les choses? Pourquoi, comme le léopard, tentons-nous des choses hors de notre portée, risquant toute notre vie, notre carrière, risquant tout, pour essayer d'aller plus loin, au-delà? C'est un vrai mystère. Au mois de septembre, nous reprendrons le cours de cette promenade vers les sommets, avec des invités de grande qualité, célèbres ou non d'ailleurs. À ce propos, je vous annonce la venue de Boualem Sansal en septembre, devenu académicien français à peine sorti des geôles algériennes. Des explorateurs, des écrivains, des cinéastes, des soldats seront nos compagnons de cordée. Et la perspective me fait déjà frissonner de plaisir. Mais cet été, notre programmation est différente. Autre rythme de vie, autre style d'émission. Il y a deux semaines, je vous proposais un best-of, en français un florilège, des meilleurs moments musicaux de la saison. Aujourd'hui, deuxième épisode. Pas d'invité, pas d'interview, juste de la musique de Chopin à Trenet et des Beatles à Puccini. Ça vous tente? Parfait. Moi aussi. Pour commencer, petit souvenir de l'émission avec Jean-Marie Perrier, le photographe symbole des années yéyé, même si on ne saurait évidemment le réduire à ça. Il nous avait raconté son plaisir à organiser des séquences avec toutes sortes de stars, à commencer par les plus grandes de la pop culture, les Beatles. Commençons donc l'émission pied au plancher avec un extrait de leur album le plus novateur, le plus sophistiqué, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. À ce propos, si vous passez à Paris, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a une expo chez Christie's avec les plus belles photos de Jean-Marie Perrier. Le 11 janvier, dans ce studio, nous avons réfléchi, sans nous prendre au sérieux évidemment, avec Basile Decoq et le réalisateur Laurent Firode, à la question que voici. Y a-t-il un humour de droite? Je me souviens que Firode, provocateur, avait suggéré que la question devrait plutôt être « Y a-t-il un humour de gauche ?» Regardez sur YouTube, au Canal+, les petits sketchs courts qu'il réalise pour se moquer du politiquement correct qui sévit partout. Et ça fait du bien, croyez-moi. Il y a assez de choses tragiques en ce monde pour ne pas profiter, comme dit Brigitte Bardot, de ce qui est rigolo.
Quand je fais n'importe quoi, je voudrais que tout le monde fasse comme moi. Même si c'est pas comme il faut, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots, c'est rigolo. Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant « C'est rigolo !» prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie sauf qui peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo. La police, je me déguise en précipice, tous les agents tombent de haut. Ce qui m'a pris de vous chanter un aussi joli morceau, c'est rigolo. J'avais bien préparé un discours. Fatiguée, je me suis endormie. J'ai rêvé tout ceci, ce que je voudrais dire, je préfère vous l'offrir. En chantant cet air-là qui m'a plu, c'est pourquoi. Pour cette nouvelle année qui vient de recommencer, je voudrais vous dire un seul mot, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo.
Belmondo, Delon et donc Brigitte Bardot, toutes les grandes étoiles françaises du cinéma nous ont quittés récemment. Y a-t-il dans la génération actuelle des personnalités de cette envergure, de ce charisme ? Pas sûr, même si j'espère me tromper. Chaque génération, évidemment, fabrique ses références, c'est vrai. Souhaitons que celles qui viendront auront l'étoffe de celles qui sont parties ces dernières années. Jean-Marie Rouard avait écrit un superbe livre, Adieu à la France qui s'en va. On ne saurait mieux dire. Et Bardot était un des symboles de cette France qui n'avait pas honte d'être elle-même, qui ne se flagellait pas sans cesse. Ce qui va suivre pour moi est une des surprises de l'année. Non pas que l'œuvre soit récente, loin s'en faut, puisqu'elle date du règne de Louis XV, le bien-aimé. Non, l'étonnement pour moi fut de découvrir que le compositeur était une femme, Elisabeth Pelletier, connue sous son nom d'épouse, Madame Papavoine. Son mari était violoniste, comme le fut leur fils. C'est tout ce que je sais d'elle, mais gageons que ce fut une famille heureuse et que les soirées chez les Papavoine devaient être superbes. Bien peu de femmes, surtout alors, ont laissé derrière elle une œuvre musicale. Je suis curieux de savoir comment Elisabeth était perçue à l'époque. Dans son œuvre figure une cantatille, petite cantate, au titre prometteur « La France sauvée » ou « Le triomphe de la vertu ». Vaste programme. Le morceau que je propose maintenant est donc très court, plein de fougue, interprété par la jeune violoniste Sophie de Bardonnèche qui exhume l'œuvre de compositrice oubliée. Voici donc Le Cabriolet, accrochez-vous. Alors, pas mal, non ? Ça vaut la peine d'être entendu. Le 30 mai dernier, nous avons parlé de tennis en plein Roland-Garros avec l'ancien joueur et actuel directeur du tournoi féminin de Strasbourg, Denis Neijlen. Il nous a raconté sa vie de l'époque, les entraînements avec Borg, avec McEnroe, le match contre Villa sur le central de Roland-Garros. Un tennis d'une autre époque, moins performant peut-être, infiniment moins rémunéré, mais sans doute plus léger. Classé environ 100e mondial, il gagnait, dit-il, de quoi payer son loyer et voyager dans le monde pour y disputer des tournois. « Ça me suffisait, disait-il. Je me sentais extraordinairement libre. Sage parole. » Ce jour-là, nous avons écouté quelques musiques liées au sport, notamment celle de Vangelis pour les chariots de feu. Ancien membre du groupe Aphrodite Child avec Demis Roussos, c'est bien la musique de film qui a fait quand même sa gloire, comme celle de Blade Runner, Antarctica, 1492, Missing et donc Chariot de Feu, pour lequel il a obtenu l'Oscar en 1982. Ah, l'entraînement des coureurs en tenue blanche sur la plage dans les années 20, un beau moment de cinéma. Vangelis. Voilà, aujourd'hui sur Radio Courtoisie, dans les neiges du Kilimandjaro, nous ne faisons qu'écouter de la musique avec les meilleurs morceaux de ces 20 et quelques émissions que nous avons vécues ensemble depuis le mois d'octobre. J'espère que le choix vous plaît. La carrière posthume des chanteurs est très variable. Certaines gloires perdurent pendant des décennies, ainsi que Claude François, Brel, Brassens, dans des registres très différents, et tous disparus il y a plus de 40 ans, sont-ils toujours écoutés et appréciés des jeunes générations qui ne les ont pas connus du tout. Trainé, Piaf, eux, sont carrément intemporels et au-delà des modes. C'est d'ailleurs bien par un titre de Piaf, disparu en 62, que sont achevés les Jeux de Paris en 2024. Pour d'autres, en revanche, la postérité est moins douce. Je pense notamment à Gilbert Bécaud. On a oublié qu'avant Johnny et les Yéyés, plus jeunes que lui de 15 ou 20 ans, c'était bien pour lui que les fans cassaient les fauteuils à Olympia. Détrônés à l'étranger, les succès qui deviennent même des standards en anglais, comme « Je t'appartiens », repris par des dizaines d'artistes américains, Presley, Bob Dylan, Cher, et bien d'autres, sous le titre « Let it be me ». Et des tubes plus franco-français comme Nathalie, Les Marchés de Provence, L'Importance et la Rose, 30 passages à l'Olympia. La carrière de Bécaud a été triomphale, il a même enregistré des titres en japonais, sans comprendre un traître ou autre. Mais d'où vient qu'il semble un peu oublié infiniment plus que son ancien partenaire Aznavour ? Mystère. Écoutons ce titre qui pose la question que tous nous nous posons si l'être que nous aimons nous quitte. Et maintenant, que vais-je faire ?
Et maintenant, ce temps. Que sera ma vie de tous les gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti toutes ces nuits. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin, je trahirai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire, non. Je n'ai vraiment plus rien.
C'était Béco Gilbert sur Radio Courtoisie. Peut-on imaginer plus dissemblable que Michel Berger et Johnny Hallyday? Le jeune homme un peu timide, de très bonne famille, et le sexe symbole venu de la rue, ou presque, comme il chantera d'ailleurs, n'ont absolument rien en commun. Le phrasé délicat, l'allure frêle de l'un sont à l'opposé de la puissance vocale et de la communion charnelle avec le public de l'autre. Et pourtant, le temps d'un album écrit par Berger pour Hallyday, Rock'n'Roll Attitude, sorti en 85, leur complicité artistique fut évidente. S'inspirant de l'image de la star de sa vie réelle, Berger, inspiré, compose plusieurs tubes comme Le Chanteur Abandonné ou Rock'n'Roll Attitude. Mais le titre phare qui change vraiment la carrière de Johnny, c'est Quelque chose de Tennessee, en hommage à Tennessee Williams que Johnny admirait et qui commence par cette phrase parfaite de l'auteur américain. « À vous tous, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. » Berger Hallyday en duo.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette
cœur de la ville s'est endormi.
Flotte un sentiment comme une envie. Serrons-nous avec ces mots et lui.
Quelle leçon de Tennessee.
Le mois dernier, j'ai eu le plaisir de vous proposer une émission consacrée aux écrivains voyageurs inspirés par l'Asie. Nous avons évoqué Joseph Conrad, l'Indonésie, Graham Greene, le Vietnam, Marco Polo et l'Empire du Khan, Lucien Baudard, la guerre de Chine, Albert Londres, enquêtant à Shanghai, et Pierre Loti, qui fut d'abord officier de marine en mission au Tonkin. Pour illustrer cette période, un titre s'imposait, le fameux air de Madame Butterfly, l'opéra de Puccini. Rappelons l'intrigue rapidement. Un jeune officier américain en escale, Benjamin Pinkerton, loue une maison traditionnelle et épouse à cette occasion une geisha de 15 ans, Kyokyo-san, ce qui signifie en japonais « Madame Papillon ». Simple divertissement exotique pour lui, le mariage est pris très au sérieux par la jeune japonaise qui renonce à tout et à sa religion. Une cérémonie et puis il disparaît et n'a plus de nouvelles. Kyokyo-san reste fidèle néanmoins, refuse des propositions de mariage. Pinkerton revient au Japon avec sa nouvelle épouse américaine, apprend qu'il a eu un fils en son absence. Quand Kyokyo-san comprend la situation, elle leur abandonne son enfant et se donne la mort en se poignardant. Terrible, c'est Madame Butterfly.
Thank you.
le livret, l'argument, comme on dit, aurait pu vraiment être un roman de Pierre Loti. Autre auteur français fasciné par l'Asie, Pierre Schoendoerffer. On l'oublie en effet, mais il fut aussi un écrivain, un auteur, et pas seulement un cinéaste, caméraman rescapé de Dien Bien Phu. Ce grand cinéaste fut aussi un écrivain, et 4 de ses 5 romans ont pour décor l'Asie. La Due au Roi, adapté au cinéma par les Américains, avec Nick Nolte, là-haut, le crabe tambour, la 317e section portée à l'écran par lui-même. Le courage, la droiture, la solitude de l'homme face aux grands choix moraux en font la trame émouvante, exaltante, nostalgique et fougueuse. Lisez Schoendoerffer. L'œuvre cinématographique ultime de Pierre Schoendoerffer, c'est bien sûr Dien Bien Phu, qui raconte la dernière grande bataille entre le corps expéditionnaire français et l'armée dirigée par Giap. Tragédie absolue, énorme erreur stratégique du commandement et héroïsme vain des défenseurs du camp retranché sont parfaitement racontés et magnifiés par la musique de Georges Delerue, le concerto de l'adieu que le film fait jouer en la cathédrale d'Hanoï alors que les derniers paras se sacrifient en sautant sans espoir à leur retour pour partager le sort de la garnison. Début mai, j'ai consacré un numéro des neiges du Kilimandjaro à cette bataille très symbolique. À plus de 10 000 km de la France, mal comprise, un peu oubliée, un peu honteuse, elle reste au fond assez méconnue, même si les choses changent depuis une vingtaine d'années. Elle est pour moi, depuis toujours, un symbole de courage, de solidarité, de chevalerie même. Mais elle incarne un sacrifice vain, en un sens absurde. Quand les hommes de Koenig en 42 à Bir Hakeim résistaient à l'Afrika Korps et aux Italiens dans la fournaise du désert libyen, ce ne fut pas en vain. Leur acharnement donna aux Britanniques le temps de se réorganiser et de préparer aile à la main sans avoir remède aux trousses. À Dien Bien Phu, tant d'héroïsme ne servit à rien. Au strict sens militaire, elle ne scelle pas le sort de la guerre, puisque l'effectif engagé ne dépasse pas 15 000 hommes, soit moins de 10% du corps expéditionnaire français. D'ailleurs, il y a encore 2 mois de combat assez intense avant la fin. 8 ans déjà que Leclerc avait, au nom de la France, repris possession de l'Indochine, saisie par les Japonais dans un déchaînement de violence. 8 ans que les Vietnamiens, enhardis par la défaite française de 40 en Europe, luttaient pour l'indépendance. Plus d'escarmouches, plus d'embuscades, plus de coups de main. Offrons-nous une vraie bataille, s'est-on dit à l'état-major français. Hélas, la suite allait montrer la fantastique organisation des troupes de Jap, leur vaillance, leur efficacité et surtout le volume stupéfiant de l'armement fourni par la Chine de Mao. Dans la cuvette de Dien Bien Phu, allaient disparaître quelques-uns des meilleures unités de l'armée française, paras, légionnaires et surtout le moral des troupes, comme de l'opinion publique métropolitaine, reçut un coup terrible. Déjà incomprise, impopulaire, la guerre de la Chine ne pouvait plus être gagnée. De plus, la guerre de Corée venait de s'achever, Staline était mort, la détente Est-Ouest paraissait impossible. Delattre avait écrit « En Indochine, une catastrophe peut survenir, mais il ne peut y avoir de miracle. la catastrophe allait survenir à Dien Bien Phu.
Ils attendaient dans la cuvette le tout dernier assaut des viettes. Dans la boue, ils creusaient leur trou. Viens, viens. Depuis des mois, dans la bataille, sous un orage gris de ferraille, ils pensaient qu'ils tiendraient le coup. Avec moi, bien, yeah. Encore, encore. Le PC Gabriel est tombé ce matin. Isabelle tient encore en sous-bas, au corps à corps, près du commandement. Des gosses de 18 ans pour la France tombent en chantant. On n'entend plus sur la cuvette que le cri de victoire des Viettes. Vous avez tenu jusqu'au bout. Tiens. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout de Dien Bien Phu. Mais nous, on reste fiers de vous. Pour Dien Bien Phu.
C'était bien sûr Jean Pax Méfray à l'Olympia avec une foule de fans. Pour clore cette petite séquence indochinoise, changeons de registre. C'est maintenant Hanoï contemporain que nous allons évoquer. Saigon est grouillant, j'arrive pas à dire Ho Chi Minh Ville, excusez-moi. Grouillant et contradictoire. On y entend encore les slogans diffusés par haut-parleurs, on exalte le communisme théorique, mais à quelques mètres de la statue de l'oncle Ho s'offre une concession Rolls-Royce. On se demande finalement qui est le franc vainqueur de la guerre. Au nord du pays, Hanoï est plus austère, plus charmante aussi. Et en déambulant tranquillement, on passe des vastes bâtiments coloniaux érigés sous l'administration française aux petites rues étroites où les échoppes émanent l'odeur de la papaye verte. La Grande Sophie.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes couleurs aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes romains, la pluie des gringoles. Du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Son cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a comme un monde qui bouille. Devant moi, un tableau. Les amoureux se questionnent et ma voix chante. Je te reverrai dans la chaleur humide sûr d'être toi. Hanaï, Hanaï, tu m'as fait voir ton sourire, ta vie dehors, tes ruelles aussi. Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. Hanaï, Hanaï, je t'appartiens. Sur l'ouverte, tes marionnettes, dans une autre vie. Autour du lac, j'entends encore des bruits qui résonnent, des vagues de moto. Quelle est cette autre personne, son cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a un monde qui bouillonne. Devant moi, un tableau, les amoureux se questionnent. Si je t'aperçois, Hanaï, Hanaï, si loin de moi, le velours, la fleur de lune, et moi à Paris.
Hanoï, Hanoï par la grande Sophie. Aujourd'hui, les neiges du Kilimandjaro sont exclusivement musicales avec les morceaux qui nous ont plu, enfin qui vous ont plu, j'espère, les meilleurs morceaux diffusés durant l'année au milieu des interviews qui sont quand même le cœur de l'émission. Le 1er novembre, par exemple, je recevais ici Arnaud Klarsfeld. Il parla bien sûr de ses parents, Beate et Serge, de son rôle d'avocat, de ses convictions parfois controversées. Alors qu'il était un farouche ami du Front National, il estime désormais que c'est LFI la plus grave menace et se déclare prêt à voter Rassemblement National pour barrer la route au parti de Mélenchon. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Son soutien inconditionnel à Israël, où il a effectué un service militaire opérationnel, fait aussi polémique. Il justifie en effet l'action du gouvernement Netanyahou, y compris à Gaza. En tout cas, ses engagements sont assumés. Il a aussi parlé de choses plus légères, comme son amour du cinéma américain, y compris celui du vieil Hollywood. Vous vous souvenez du Magicien d'Oz, dans lequel joue et chante Judy Garland? Voilà une version exquise d'Over the Rainbow, par le chanteur haïtien Israël Kamakawiwole, qui s'accompagne au ukulélé. Fermez les yeux, respirez calmement. Imaginez la lagune et l'eau turquoise.
Dream that you did too, oh why? of Greenland, red roses too. I watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't
bien sûr un medley, je dis Garland, donc Over the Rainbow, et bien sûr What a Wonderful World de Louis Armstrong, réinterprété par Ismaël Kamakar-Kiwole. On apprend tous les jours, c'est connu. Ainsi, je n'avais jamais réalisé que Charles Trenet avait composé Douce France en 1943 sous l'occupation allemande. Elle a d'abord été considérée comme une chanson célébrant la France d'avant, bercée d'insouciance, celle qui était libre avant l'invasion allemande. Mais, à la libération, elle a été perçue comme un hymne à la gloire du maréchal Pétain et de la France vichyste. Ce renversement d'interprétation est venu en partie du fait que Trenet a continué à chanter dans les cabarets jusqu'à la fin de la guerre, comme d'autres d'ailleurs qui devaient gagner leur vie. Dès lors, Douce France a été un temps considérée comme une ode pétainiste. La commission d'épuration a considéré finalement que Trenet était un partisan de la collaboration. Il était condamné à 8 mois d'inactivité, réduite à 3 mois. Il l'a reprise en 1947, après que la polémique s'est calmée, et il a enregistré pour la première fois à ce moment-là, Charles Trenet.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Et je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages, des soleils merveilleux, au cours de lointains voyages, tout là-bas, tout d'autres cieux, mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route, ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Durant cette même époque terrible, et même si Trainé ne fut évidemment pas un collaborateur, d'autres artistes firent, il est vrai, des choix beaucoup plus courageux. Jean Gabin, bien sûr, dont nous parlerons dans un instant, ou Jean-Pierre Aumont qui quitta Hollywood pour participer aux campagnes d'Afrique du Nord, d'Italie ou au débarquement de Provence. Aide de camp du général Brosset, il est à ses côtés lors de l'accident de Jeep où le général trouve la mort. Dans ces mêmes campagnes de France et d'Italie, parmi les infirmières, figure une grande vedette de la chanson et du cinéma d'avant-guerre qui reçut la médaille de la résistance et de la croix de guerre, Germaine Sablon. Longtemps, elle fut la compagne de notre cher ami Joseph Kessel. Elle l'hébergea dans le Midi avec son neveu Druon et les rejoignit ensuite à Londres. Elle fut l'interprète du Chant des partisans, écrit par les deux hommes, Kessel et Druon. Et ne serait-ce que pour cela, il ne faut pas oublier Germaine Sablon. Issue de son répertoire léger, voici autre chose. Tant pis, tant mieux.
Tant que l'amour vaudra que l'on soit ivre, tant que mes cheveux boucleront, moi, mes amis, je vis ta fibre et fais jouer tous les violons. Ne verrai jamais personne au monde qui sache boire autant que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Si mon chemin s'amuse quand le tien va tout droit, ou c'est tant pis pour moi, ou c'est tant pis pour toi, ou c'est tant pis, ou c'est tant mieux, mais tant pis pour nous deux. Tu ne verras jamais personne au monde qui sache t'aimer mieux que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Et si demain tu m'aimes, eh bien tant pis pour moi. Mais si c'est moi qui t'aime, alors tant pis pour toi. Ou c'est tant pis, ou c'est tant mieux, mais tant pis pour nous deux. Vous ne verrez jamais personne au monde qui sache vivre mieux que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Et si un jour tu meurs, eh bien tant pis pour moi. Mais si c'est moi qui meurs, alors tant mieux pour toi. Ou c'est tant pis, ou c'est tant mieux, mais tant mieux pour nous deux. Vous ne verrez jamais personne au monde qui s'amuse aussi bien que moi. Je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Non, non, jamais, jamais personne au monde ne saura boire autant que moi. Et plus jamais personne au monde ne
puis tant mieux, Germaine Sablon. Avez-vous lu Un singe en hiver d'Antoine Blondin, ou vu le film d'Henri Verneuil avec Belmondo et Gabin? L'histoire de deux alcooliques magnifiques qui toraient les voitures. À voir vraiment pour sa liberté de ton. Ah, à propos de Gabin, que d'anecdotes. Je me souviens de José Giovanni, le metteur en scène, disant « Mes acteurs préférés sont Ventura et Gabin. Ils sont authentiques, ils sont vrais. » La différence entre eux, c'est que si une scène, la même, est jouée avec les deux acteurs, Ventura est une fille de joie, Gabin est une fille de joie, à Gabin, elle sera en train de dire « Pour toi, c'est gratuit. » L'autre scène avec Ventura, Ventura sera en train de lui dire « Je vais t'aider, je vais te sortir de là, ma petite fille. » Voilà qui était Gabin. Un film de 36 du Front Populaire, donc, La Belle Équipe, et Jean Gabin chante. On a oublié que c'est son premier métier, il a commencé en music-hall. Quand on se promène au bord de l'eau, Jean Gabin.
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui affardeux, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Dans cette même émission où l'invité était Eric Nolot, il présentait son pamphlet sur Jean-Luc Mélenchon, nous avions évoqué une autre activité, le théâtre. Il se livrait en effet à l'époque à un exercice intéressant avec Judith Magre, la comédienne, une sorte d'hommage à Aragon. Il déroulait la vie de l'auteur et Judith Magre disait des poèmes. Nolot ne cachait rien des choix poétiques désolants d'Aragon. C'est quand même un homme qui a pu écrire à propos du goulag « Nous sommes à ce moment prodigieux où une classe, le prolétariat, a entrepris une tâche historique sans précédent, la rééducation de l'homme par l'homme. » Accablant, non. Mais Nolot, comme on peut le faire pour Céline, dissocie l'homme et l'artiste. C'est un débat sans fin. À quelle aune juger un créateur? Celle de son art ou celle de ses engagements personnels? On ne peut nier en effet qu'Aragon, à côté de textes grotesques et même honteux comme une ode au GPO, oui, l'ancêtre du KGB. C'est fou. A écrit des choses superbes. La Semaine Sainte, bien sûr, mon favori. On connaît mieux son œuvre poétique, notamment grâce à Jean Ferrat, qui a mis certains poèmes en musique, comme ici, Aimer à perdre la raison, Aragon, Ferrat.
aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Voilà, c'est quand même superbe, non? Malgré leurs options politiques assez désastreuses, Ferrat et Aragon appartiennent quand même à notre patrimoine. Un des avantages de ce beau métier qu'est la radio est qu'il permet de partager, de transmettre aux auditeurs, à vous donc, les choses qui nous touchent, nous font sourire, nous éblouissent, nous élèvent, nous font réfléchir. J'ai donc ce plaisir aujourd'hui de proposer une sélection des musiques diffusées dans cette première année des Neiges du Kilimandjaro, des musiques de films souvent, mais aussi des œuvres classiques et de la variété française ou internationale. Quand on a plus de 60 ans de carrière, qu'on traverse les époques, les générations sans se renier, alors que rien n'est plus versatile que le public et ses goûts, c'est qu'on a quand même en soi quelque chose d'unique, me semble-t-il. C'est le cas du jeune Claude Moine, né en 42 à Belleville, et célèbre depuis 61 avec les chaussettes noires, sous le pseudonyme plus rock'n'roll d'Eddie Mitchell, également connu comme Monsieur Eddie ou Schmoll. Cinéphile incollable, qui a oublié les fabuleux films en technicolor qu'il proposait dans la dernière séance, excellent acteur lui-même, il reste avant tout un chanteur et un parolier. En 64, il adapte le succès américain Always Something There to Remind Me, très littéralement, et ça donne toujours un coin qui me rappelle, Eddie Mitchell.
Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle, toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer, je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, 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 oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne où l'on allait danser le soir. Je me revois là, t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle, toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer, je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie.
C'est vrai que c'est une sensation assez universelle, non? Les lieux immuables qui nous rappellent un amour enfui. Moi, c'est une sensation que j'éprouve sans cesse, pas vous? Johnny idolâtrait Elvis. Je soupçonne Eddie Mitchell d'avoir une passion pour Dean Martin, moi aussi d'ailleurs. La décontraction absolue, on l'appelait le King of Cool, c'est pour vous dire. Lui aussi acteur, l'adjoint alcoolique inoubliable de John Wayne dans Rio Bravo, entre autres, mais surtout chanteur. C'est le crooner absolu, ironique, charmeur, qui n'hésitait pas à boire et à fumer sur scène dans son show hebdomadaire sur NBC, même si, dans le dernier cas, c'est Jules Pomme qui faisait passer pour du bourbon pour avoir l'air plus cool. Comme son ami Sinatra, il a entretenu, c'est vrai, des amitiés embarrassantes avec certains chefs mafieux, origine italienne oblige, n'oublions pas qu'il est né Dino Crocitti. On n'arrive pas à lui en vouloir, non? Écoutez, Dean Martin sait s'installer dans un fauteuil confortable, siroter une boisson de son choix et sourire. En 68, il atteint les sommets du classement avec Gentle on My Mind, et voici.
Knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. Well, it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried upon some lime. The rivers, my memories, keeps on my mind. Oh, it's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me. Or something that somebody said because they thought they fit together walking. It's knowing that the world will not be cursing or forgiven when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. I get my suit back from the gurgling cracks up in some train yard. My beard a rough and cold pile and a dirty hat pulled across my face. Two cup hands round a tin can, I pretend I'll hold you to my breast and find that you're weaving from the back roads by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. That's all right, flowers.
C'était Dean Martin, nous l'avions écouté dans l'émission avec Basile Decoq et Laurent Firode. Pourquoi ? Parce que cette chanson est au générique d'un film drôle, très drôle français, OSS 117. Évidemment, c'est difficile d'affirmer qu'un invité est meilleur qu'un autre, mais je dois avouer que Patrick Chauvel, dans mon panthéon, tient une place à part. Correspondant de guerre, cinéaste, photographe, il a couvert 34 conflits depuis la guerre des Six Jours en 67. Irlande, Vietnam, Érythrée, Mozambique, Liban, Tchétchénie, Afghanistan, tant d'autres, y compris là récemment, la guerre russo-ukrainienne. Il a risqué 100 fois sa vie, il a été blessé 7 fois par les Iraniens, les Khmers Rouges, les Américains, involontairement là, etc. Tous ces risques pour informer, témoigner. Sachez que l'ensemble de son œuvre est d'ailleurs visible actuellement, enfin définitivement d'ailleurs, au mémorial de Caen. Dans l'émission, vous étiez l'invité, aux côtés de l'ancien patron du Raid, Amaury de Hauteclocque. J'ai choisi de lui faire entendre la musique du film de Ridley Scott, La chute du Faucon Noir, car je savais qu'il avait couvert ce conflit. Ce que j'ignorais, en revanche, qu'il nous a dit ce jour-là, c'est qu'il avait vu tomber lui-même le Black Hawk tout près de lui, c'est le sujet du film, et que l'équipe de Ridley Scott est venue lui demander des informations de première main. La musique du film, donc, la voici. Ne cherchez pas, si cette langue est un dialecte de la Corne de l'Afrique, c'est du breton, étonnamment, interprété par Denis Prigent.
Gortozet meus, gortozet meus, esket en var an tuyuget, esket en var an tuyuget, esket en var Guelo porto zata, hui ama guelo porto zata.
Etrei armura nostra.
ce chant breton que Ridley Scott a tellement aimé qu'il a donc utilisé comme musique dans son film La Chute du Faucon Noir.
Chaque année, c'est le même scénario. Les vacances commencent, le quotidien s'arrête et certains choisissent d'oublier leurs engagements. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie. Alors que la gauche veut nous bâillonner et détruire notre liberté d'expression qui vous est chère, votre radio reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'été est la période la plus difficile de l'année. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre et vous préparer une rentrée percutante. 1 euro, rien qu'un euro par auditeur. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Soyez partie prenante de cette résistance. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre, indépendante et fidèle, grâce à vous.
Le jour de la première des neiges du Kilimandjaro, l'historien Eric Roussel et le dirigeant d'entreprise Média Nicolas Pernikoff sont venus, très gentiment, parler d'histoire et de communication. Eric Roussel, auteur de biographies célèbres de Pompidou, Malaise France, De Gaulle, bien d'autres, nous avait raconté ses enquêtes, sa manière de travailler, expliquant entre autres comment Jean Monnet travaillait secrètement pour les Américains, ou que tel journaliste français célèbre était appointé par le KGB. Il nous a aussi parlé du fameux « Vive le Québec, libre !» scandé par le général de Gaulle. Parmi les musiques diffusées ce jour-là, celle qui vient est assez étonnante. Il s'agit de la BO du film Furio, qui narre la relation étrange qui s'instaure entre un geôlier japonais et son prisonnier britannique, joué par David Bowie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Étonnante, car le compositeur n'est autre que le réalisateur du film, également acteur, Richie Sakamoto, un artiste complet.
Thank you.
Les deux derniers morceaux de l'émission, je l'avoue, ne sont pas très gays, mais on n'est pas obligé de rire tout le temps non plus. Ce sont deux morceaux qui évoquent, de manière assez dissemblable, assez même opposée, la Deuxième Guerre mondiale. Le premier, c'est un extrait du Pianiste, le film de Roman Polanski qui raconte l'histoire vraie de Spielmann, ce pianiste qui s'est caché, terré pendant des années, ce spécialiste de Chopin qui jouait à la radio de Varsovie, qui était très connu, qui a réussi à échapper pendant des années au drame de la Shoah, tout ce qui s'est passé en Pologne et ailleurs. Imaginons le bonheur, l'émotion sans limite qu'a dû ressentir Władysław Spielmann quand, de retour à son poste à la radio de Varsovie, il a pu à nouveau jouer le nocturne numéro 20 de Chopin, qui est le symbole du film, une des pièces majeures de l'œuvre du compositeur polonais. Je vous disais que les deux derniers morceaux de l'émission étaient assez antinomiques, c'est vrai, parce que celui-ci illustre une série qui voit la guerre du côté allemand. C'est assez peu fréquent. Une série d'il y a une quinzaine d'années, il me semble, 10 peut-être. Une série Mutter, une série Vater, excusez-moi pour cet accent allemand assez lamentable, ce qui veut dire nos mères, nos pères, traduit en français sous le titre absurde de War. Cette série raconte le destin de 5 jeunes Allemands qui traversent toute la guerre, certains combattants, d'autres infirmières. Une cinquième tente à un moment de sympathiser un peu avec le régime pour favoriser sa carrière de chanteuse. Bien mal lui en prendra, car c'est elle qui finalement aura le destin le plus tragique. C'est de la fiction, bien sûr, mais j'imagine que des gens ont vécu ça en Allemagne. Le dernier morceau de notre choix, c'est ce très joli chant allemand, cette chanteuse de variété, de fiction, je le répète, My Kleine Herz, mon petit cœur.
Mein kleines schon vom Glück. In der Heimat wartet es auf dich und weißt, du kehrst bald zurück. Liebevoll schaust du mich dann an. Unsere Lippen finden sich ganz sanft und ich weiß, du bist mein Mann.
Voilà, une sélection de 20 morceaux que nous avons diffusés entre octobre et juin dans les neiges du Kilimandjaro, dont, je le rappelle, l'esprit est de recevoir des invités, de parler avec eux, des interviews sur le fond, avec des gens de tous azimuts, ceux qui me plaît d'avoir et ceux qui ont la gentillesse de venir. Mais il y a aussi un peu de musique et durant cet été, j'ai voulu privilégier la musique. Et en septembre, tout reviendra normal. Voilà, et on vous souhaite un bel été, il va bien se passer avec ou sans Radio Courtoisie, on a quand même le droit de débrancher de temps en temps. Merci d'être là et je vous retrouve en septembre avec beaucoup de plaisir. Au revoir.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro, dirigée par Marc Bessou, émission préenregistrée le 11 juillet 2026, diffusée sur Radio Courtoisie, samedi 25 juillet de 18h à 19h30 et réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.